Là, mes terrains, ils font 18 mètres de large parce que ça fait 12 planches d'un mètre 50 de large. Que tous mes terrains, ils ont toutes la même superficie pour pouvoir faire de véritables rotations. Que j'associe des légumes, différents légumes pour pouvoir en fait être le plus efficient possible et avoir le meilleur usage possible de la terre. Ce que je voulais parler de la biodiversité, pour revenir sur la biodiversité, oui. C'est qu'en fait, en faisant du maraîchage, on fait tout système agricole, en fait, on crée un déséquilibre. Le meilleur équilibre étant la friche. D'accord. En fait, il y a les prédateurs, les auxiliaires, donc les ravageurs, les auxiliaires. Il y a des adventices, il y a toutes sortes d'adventices et ça crée un équilibre. À partir du moment où on commence à travailler la terre, en fait, on crée un déséquilibre. Mon jeu à moi, c'est de remaintenir ce déséquilibre, de remaintenir un équilibre, de revenir sur un équilibre, un semblant d'équilibre. Donc, à titre d'exemple, par exemple, je prends un exemple tout bête, mais la limace et les escargots sont utiles en fait pour manger la matière organique. Cette matière organique va se minéraliser, ces minéraux vont être assimilés par la plante et ainsi de suite, et la boucle est bouclée. Donc, je n'utilise pas du fer à molle. Le fer à molle, c'est du fer qui est autorisé en bio, c'est les petites billes bleues là, toutes dégueulasses. Enfin, bon, pas toutes dégueulasses, ça c'est un jugement de valeur. mais c'est ces petites billes bleues. Ces petites billes bleues là. De fer qui sont autorisés pour pouvoir tuer les escargots. Moi, je ne tue pas les escargots. En fait, ce que je fais, c'est que le matin, quand j'ai ma frontale hein, qui est dans le camion, je commence ici dans l'échange, je suis à 6h15. Et à 6h15, je suis avec ma frontale et je ramasse les escargots au fur et à mesure et les limaces. Donc, je ne crée pas un génocide parce que finalement, j'en loupe. Contrairement à quand on balance un produit, on ne sait pas ce qu'on balance. Enfin, on sait ce qu'on a balancé, mais on ne sait pas la conséquence de ce qu'on a balancé. Et après, de mes escargots et de mes limaces, mes poules elles sont contentes, elles ont des protéines. Et en fait, c'est ce qui fait des coquilles qui sont assez dures et ainsi de suite, ce qui me permet de ne pas avoir besoin de leur donner autre chose. Bien sûr, elles ont du grain, mais elles n'ont pas besoin d'autre chose que les escargots pour pouvoir avoir des belles coquilles. Voilà, et c'est ça un peu l'histoire du maintien de la biodiversité et voilà, des équilibres. Je fais pousser des fèves, mais les fèves n'ont que vocation d'avoir des pucerons. Catastrophe, d'avoir des pucerons, oui, c'est une catastrophe, mais ça va permettre d'attirer les coccinelles. Les coccinelles, en fait, vont bouffer les pucerons. Il y a un petit réservoir, et moi je prends mes petites boîtes, je remplis de coccinelles, et après je vais les mettre dans mes serres. Voilà. En espérant que les coccinelles adultes, c'est parce qu'elles sont le plus efficace, mais en fait, après, ce que ça va apporter, c'est qu'il va y avoir des larves de coccinelles et ainsi de suite. Voilà un petit peu pour ce qui est du maintien de la biodiversité. Pour ce qui est de.
Si on reste sur.
Alors, vous allez voir, il y a différentes plantes dans les serres, notamment là des soucis. On s'en fait beaucoup en tant que maraîcher. Mais il y a également des soucis qui en fait vont héberger des macrolophus. Les macrolophus en fait c'est un excellent auxiliaire notamment pour les tomates. Enfin, pour lutter contre les acariens et les pucerons au niveau des tomates.
D'accord.
Et donc en fait en effet il y a des bandes fleuries. Et il y a certaines associations de culture. Après je fais des bâches d'occultation, c'est pas dans ces champs-là. Mais je mets des bâches d'occultation, ça s'appelle du maraîchage sol vivant. En fait, la bâche d'occultation permet de faire un peu le même effet finalement qu'en dessous d'un tronc d'arbre. Quand on a posé un tronc et quand on regarde en dessous, il y a tout plein de faune, de flore et ainsi de suite. Il y a une super mycorhisation qui se passe, des champignons. Et donc voilà, et donc en fait, c'est un peu le même état d'esprit, c'est-à-dire qu'on pose une bâche, donc on fait un couvert finalement sur notre terre.
C'est pas l'équivalent d'un paillage.
Non, là il y a du paillage noir, mais là c'est vraiment une bâche.
D'accord.
Comme si c'était un paillage, hein, mais c'est une bâche vraiment, c'est
continue.
Une bâche d'ensilage et qui reste pendant 4 mois, un truc comme ça. Ce qui va faire qu'en fait ça va se minéraliser et ainsi de suite, ça réchauffe la terre. Et puis même ça diminue la pression de certains champignons
Adventist
qui pourraient être
ou
Adventis.
Ok.
Certains champignons qui pourraient être nocifs. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre en fait ? Des engrais verts. C'est-à-dire qu'en fait, je fais pousser des plantes comme du sorgho fourrager, de la veste. Là, je regarde ici parce que c'est sur.
Pour avoir le sol couvert en permanence.
Et c'est surtout aussi pour pouvoir apporter de la matière organique. La matière organique, donc c'est de la matière végétale,
oui.
Hein,
oui,
qui va finir par se détruire, se minéraliser et ainsi de suite. Et donc, ça va faire un apport. Donc le sorgho fourrager en fait fait énormément de matière organique et en plus c'est structurante pour le sol. voilà, c'est parce qu'en fait, c'est un développement racinaire qui est très important. Mm-hmm. Et je vais vous faire tout un cours de machin. Et voilà. Et la veste, en fait, qui est une légumineuse ou une fabacée, ça va apporter, en fait, ça récupère à travers la nodosité, en fait, ça récupère l'azote de l'extérieur pour pouvoir se nitrifier et devenir du nitrate dans le sol. Donc, ça amende le sol. Voilà. Donc, c'est pour ça que.
Agriculture de conservation, c'est-à-dire de conservation du sol.
À fond.
D'accord. Ouais. Non, mais parce que là, ça a été labouré quand même.
Ouais, c'est pas chez moi.
Ah, voilà.
Ok. Non, c'est pas chez moi. Ça, c'est pas labouré, ça. C'est sous-solé.
C'est sous-solé. Ok.
C'est alors, Portal, ça. Ouais, c'est chez Olivier Portal. On travaille pas de la même manière.
D'accord.
Voilà. C'était mon tuteur, mais en fait, j'ai pris ce que j'avais à y prendre.
Et vous êtes libéré du
tuteur. Oui, et puis, mais réciproquement, en fait, hein, ce qui est génial, c'est qu'il a cette humilité aussi à venir voir ce que je fais et à récupérer. Je suis sûr qu'il a pas... Tu continues. Donc en fait, ce qu'il y a de bien, en reparlant du maintien de la biodiversité, c'est qu'en fait, en ayant des AMAP, tu peux quand même. Autrement, tu fais que de la carne de bœuf, quoi. Enfin, je raccourcis un peu le truc. Mais si t'as pas un système où en fait tu imposes tes légumes à des gens, à des consommateurs, et ben à un moment donné, en fait, en fait, le truc c'est que
ça serait serein. À ce que connaissent les consommateurs.
Oui, mais c'est même pas ce qu'ils connaissent. En fait, ce que vous savez pas, vous consommateurs. C'est qu'en fait, c'est que des lobbying. C'est-à-dire que la cœur de bœuf produit une fois et demie de plus qu'une noire de Crimée.
D'accord.
Et donc, elle est donc beaucoup plus productive et elle coûte moins cher à la production. D'accord. Elle est plus volumineuse, donc il n'y a pas besoin de ramasser 10 pour pouvoir faire 1 kilo.
Oui.
D'accord. Contrairement à la Green Zebra, par exemple. Donc, en fait, il y a eu toute une mise en communication de la cœur de bœuf pour dire ouais, super, acheter de la cœur de bœuf, c'est la meilleure tomate ancienne. C'est la pire des tomates anciennes. L'ananas, elle est vachement meilleure. La marmande, elle est vraiment meilleure. La noire de Crimée, elle est formidable. Enfin bon, voilà. Et en fait, la cœur de bœuf, tout le monde veut de la cœur de bœuf en magasin bio et ainsi de suite. Ils veulent beaucoup de cœur de bœuf, mais c'est pas la meilleure des tomates. Mais il faut en fonction de leurs clients et les clients et ainsi de suite. Et dans un magasin, on n'a pas forcément le loisir de prendre autant de temps que moi je n'en prends par exemple là, en ce moment avec vous auprès des consommateurs.
Donc un système AMAP qui en quelque sorte impose une plus grande variété.
Exactement.
Et a des répercussions aussi en amont sur les cultures et la variété des cultures.
Complètement, bien entendu.
D'accord.
Alors moi je suis plus de 40 légumes différents. Ce que je ne fais pas comme légumes, ce sont les légumes pérennes. C'est-à-dire artichauts, asperges, topinambours, des choses de ce type-là. Parce qu'en fait, ça m'obligerait à bloquer un parcellaire et pas pouvoir faire de rotation. Et là, ça y est, je commence à avoir du parcellaire, mais avant, je n'avais pas énormément de parcellaire. Et donc, ce qui comptait essentiellement pour moi, c'était de pouvoir tourner. Pourquoi tourner ? Excellente question.
Merci de l'avoir posé.
Donc pourquoi des rotations pour plusieurs raisons. Gestion des adventices.
Oui.
Tout ce qui est prédateur, auxiliaire, ravageur et ainsi de suite. Si tu as des doryphores au niveau des pommes de terre, si tu remets tes pommes de terre l'année d'après,
ils sont encore plus nombreux.
Tu seras bien le dernier à te rendre compte que tu n'as plus de pommes de terre parce qu'eux, elles auront tout bouffé en une nuit. On parle souvent de l'appauvrissement des sols. C'est vrai, mais c'est vraiment quand on fait tout le temps la même culture.
D'accord. C'est pas la première raison, on va dire.
C'est pas la première des raisons. D'accord. Souvent, on met ça en avant. On dit si je fais mes tomates 2 années de suite, le problème c'est que j'ai déjà pris toute l'énergie au niveau de. C'est pas vrai. On a des réservoirs ici de dingue. On a plus de 3 mètres de terre ici.
Limon. C'est du limon.
Ouais. Alors c'est une terre argilo-limoneuse en effet.
D'accord.
Et en fait, avant c'était une cité lacustre. C'est un lac ici.
Ah ouais.
Et donc il y a énormément d'alluvions aussi, tout ça quoi. Donc, c'est très riche, mais bon, en même temps il y a des joncs qui nous emmerdent, enfin où on doit gérer avec. Et
l'urbanisation, c'est une catastrophe en quelque sorte sur des terres aussi.
Alors, moi je
ça c'est quoi? C'est des moutardes ou non? C'est la même famille, hein?
C'est de la fausse roquette.
Ah d'accord.
Et cette fausse roquette, vous savez que ça se mange?
Non, je ne savais pas.
Allez, allez-y, goûtez une fleur.
Franck, tu fais quoi sur les 2 autres hectares là?
Qu'est-ce que je...
Alors, juste pour... Pour le maintien de la biodiversité et ainsi de suite, j'ai deux projets d'agroforesterie. C'est-à-dire qu'en fait, je vais pousser des fruitiers et des arbres. Et en interligne, comme vous passerez tout à l'heure devant le terrain de la métropole, vous verrez qu'il y a les fèves qui poussent là-bas actuellement. Ouais. Parce qu'en fait, je fais des bandes d'arbres fruitiers ou de haies arbustives en fait. Et entre, en interligne, c'est 8 mètres et c'est là où je fais du maraîchage.
Et vous avez déjà planté les arbres ?
Ouais, là, c'est, ils sont déjà...
En liaison avec
Ah ouais, quand même. Ouais. Donc ici, en fait, alors voilà, là, l'intérêt, ça va être intéressant. Donc là, vous voyez, c'est mâche, salade.
Ouais.
Mais par exemple, ici, ce que vous allez pouvoir voir, c'est qu'en fait, alors on le voit pas très bien maintenant, mais on va le regarder un peu plus ici. Ici, en fait, il y avait des radis qui poussaient entre les navets. C'est-à-dire que là, c'est des radis. Vous voyez là, les radis. Et en fait, je fais navet, radis, radis, navet, radis, radis, navet, radis, radis, navet. Et en fait, ce qui permet que le couvert végétal que font les radis vont me permettre de ne pas avoir à gérer les adventices et laisse décompacter le sol. Et après les navets, peuvent, maintenant qu'il n'y a plus de radis ici, vous voyez, les navets peuvent se développer correctement.
Ok.
Et avant, ici, il y avait des radis.
Et vous allez ramasser les radis.
Bien sûr.
Et ouais.
Voilà. D'accord. Et donc, dans une planche.
Les poules.
Ils mangent que des escargots.
Et là, c'est de la mâche.
Non. Ouais, là, c'est de la mâche, ouais. Mmh. Et tout ça, en fait, il y a une serre à plants.
Et là, c'est des herbes.
Ouais, ça, c'est des herbes folles, là, qu'on finit par pousser. En fait, je fais mes propres plants. C'est-à-dire que je travaille avec le GRS, là, sur une serre bioclimatique. J'ai monté une serre. Il m'accompagne, hein, avec des thermomètres et ainsi de suite, des hygromètres et tout ça. C'est pas ici, hein, c'est dans l'autre terrain. Ouais. Et en fait, tout ça, ce sont que mes plans. Je pars de la graine maintenant et fais tous mes plans.
D'accord.
Voilà.
Ah ouais, c'est énorme. Je comprends que vous travaillez 70 heures par semaine.
C'est ça. Je parle de l'autre terrain. Il n'y avait plus un seul ver de terre.
Voilà.
C'était la découverte, sérieusement, j'avais donc Marcos et Olivier qui étaient mes deux salariés, et on s'amusait à dire « Toi, j'ai trouvé un ver de terre, tu sais, c'était le trésor, quoi. C'était genre, t'as trouvé une pièce en or dans ton champ, quoi. Mmh. » J'y ai mis 40 tonnes hectares de fumier de cheval. J'ai fait exprès de prendre du fumier de cheval local, parce qu'en fait, pour pas contrarier en fait, la flore, qui existe ici, pour ne pas amener d'autres adventices qui n'étaient pas présentes dans mon environnement.
D'accord.
D'accord. Voilà, 40 tonnes hectares, plus après. Donc ça, je l'ai laissé un peu s'assimiler avec le sol. Après, j'ai fait une association encore, sorgho, fourrager et vess, pour qu'en fait, il y ait assimilation de tout ça et que ça s'enfouisse exactement à travers, avec les vers de terre et tout ça. Et là, vous prenez la terre, et pourtant, ça fait que...
Deux ans.
Trois ans. Je suis à la troisième année. C'est rempli de vie. Mmh. C'est rempli de vie.
Ça va vite. Hein,
ça va très, très, très vite. Ouais. Alors, donc, ce sont des bêtises. Ici,